Europe 1.
C'est l'heure du débat des grandes voix sur Europe 1 dans votre grand journal du soir jusqu'à 19h avec autour de vous ce soir Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Marie-Ève Malouine.
Bonsoir les grandes voix, c'est presque l'été nous dit Alissa,
bonsoir.
Alors, ça nous donne le sourire, bienvenue à vous. On se retrouve bien entendu pour aborder dans quelques instants le procès historique en destitution de Donald Trump. Je dis historique mais évidemment avec un peu d'ironie puisqu'on sait bien qu'il n'y aura rien à l'issue. Et puis regardons quand même de près ces violences depuis quelques jours et encore ce matin, des actions quotidiennes des militants, entre autres de la CGT par exemple, aujourd'hui qui revendiquait une grosse coupure de courant à Orly, Rungis, c'était aux Aurores, plusieurs communes touchées, Enedis a l'intention de porter plainte, le Premier ministre l'a dit, il demandera des sanctions. Écoutons l'ancien président Nicolas Sarkozy, il prenait lui la parole hier soir à Romorantin lors des vœux du numéro 2 des Républicains, Guillaume Pelletier.
J'ai vu deux hommes qui défendront demain des politiques différentes mais qui savent donner une réalité à l'idée de la République là où d'autres l'abîment en essayant d'allumer partout des feux de la haine et de la discorde. Je ne peux pas accepter ce spectacle-là, parce qu'il abaisse notre pays. Et moi, je n'aime qu'une chose, c'est ce qui valorise la France. Et ces scènes de violence, elles abaissent la France.
Ces violences, elles abaissent la France, sauf qu'il y a eu les gilets jaunes avant. Si on ne casse pas, on n'obtient rien. C'est ça qu'on doit comprendre dans les actions de la CGT ou d'autres aujourd'hui.
Ce qu'on comprend
Gérard
surtout, Carreau. C'est qu'on pensait, enfin beaucoup de gens pensaient, avec un certain soulagement, bon c'est fini, la grève est finie, au fond le gouvernement quelque part aura gagné, il pourra faire passer son projet à l'Assemblée, bon. Et puis c'est pas du tout, on s'aperçoit que c'est, et là vraiment, que c'est pas du tout la fin, mais que c'est l'escalade. On a eu aujourd'hui véritablement une double escalade. Escalade du côté de la CGT et des éléments les plus radicaux de la CGT et qui, à la différence, c'est qu'au début, ils ont fait quelques coupures, mais bon, en gros, ils ne les condamnaient pas, mais ils ne les assumaient pas. Mais là, on entend les plus importants responsables, par exemple la Fédération de l'énergie et des mines, qui disent, on assume, on ira jusqu'au bout et on va encore monter d'un cran. Ça, c'est d'un côté, donc escalade de la CGT et de ceux qui s'y retrouvent. Et de l'autre côté, on a à l'Assemblée nationale le Premier ministre qui, lui, se fait, alors et c'est une forme qui durcit le ton et se fait le défenseur de l'ordre. On a la loi et l'ordre d'un côté, il demande des sanctions contre ceux qui font des actes comme nuisibles, qui mettent en péril éventuellement les gens à travers les coupures, etc. Donc cette double escalade, à mon avis, elle n'est pas finie et elle est dangereuse. Et puis, si vous voulez, tout à l'heure, quand mes amis auront parlé, je vous donnerai, à mon sens, de l'interprétation de ça.
Alors, Charles Villeneuve, votre interprétation, parce qu'on voit, on est dans l'enlisement, le début de l'enlisement, probablement.
Moi, je crois qu'on vit ce que les amateurs de vélo appellent un faux plat. C'est-à-dire un calme apparent qui est brisé d'escarmouches, d'actions violentes. Et les occasions de ces actions violentes sont assez nombreuses, au fond. Le Parlement n'a pas encore examiné le texte, le financement n'est pas bouclé, qu'est-ce que va donner la conférence sur le financement, l'avenir des différents régimes n'est pas encore précisé. Il reste donc plusieurs chapitres à boucler et ce sera chaque fois la possibilité de voir surgir justement ce type d'action dite violente. Bon, il y a les coupures sauvages, on l'a vu hier, encore
ce matin,
etc. Donc, si vous voulez, les instants électrique ou décisif, c'est selon, par rapport notamment à trois syndicats au moins qui veulent le retrait total et qui ne l'ont pas obtenu, parce qu'ils ont eux aussi, notamment les dirigeants, ces syndicats CGT, FO et Solidaires, des problèmes avec leur base, et souvent dépassés par leur base, qui sont tout à fait décidés à poursuivre. Donc on vit ce faux plat qui sera ponctué d'action incisive, à mon avis.
Mais ça s'appelle comment, Marie-Ève Malouine ? Parce qu'on a l'impression de guérilla urbaine maintenant, à chaque fois qu'on termine une mobilisation. Ça se poursuit en guérilla urbaine, avec des actions coup de poing, avec des actions très violentes et qui vont peut-être durer dans le temps.
On a toujours eu ça sur la fin d'un mouvement, quand il est difficile, que les grévistes n'ont pas obtenu ce qu'ils souhaitaient. Il y a toujours des escarmouches avec ceux qui reprennent le travail. Mais là, il y a une étape supplémentaire qui est franchie et qui ressemble à ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes. En tout cas, ça le rappelle parce que les Gilets jaunes, c'était un mouvement où il n'y avait pas de leader, qui n'avait pas réussi à avoir une revendication unique, qui n'avait pas de direction, mais qui avait une accusation centrée contre le pouvoir. Et maintenant, on a l'acte un peu 2 de ce mouvement des Gilets jaunes, où il n'y a toujours pas de leader. La direction des syndicats ne peut pas être entendue, elle ne peut que suivre. Et il y a une revendication qui n'a pas été satisfaite, qui était le retrait de texte. Donc, ils ne savent pas trop vers où le canaliser, ce que pourrait faire une direction. Mais ça part dans un mouvement sur lequel on peut se demander s'il n'y a pas une forme d'intolérance. Parce que ce mouvement ne tolère pas les leaders et il ne tolère pas non plus la différence. On le voit avec ce qui se passe à la CFDT. Et donc, on peut se demander quelle est la part d'intolérance dans ce mouvement.
Alors, ces leaders, on va y venir dans un petit instant, parce que pourtant, ils existent. Ils existent. Alors, sont-ils inaudibles? Pourquoi ne pèsent-ils pas sur leur base? On s'en parle dans un instant.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours jusqu'à 20h sur Europe 1. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix autour de vous pour débattre ce soir. Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Marie-Ève Malouine, Nathalie Lévy.
Et au fond, la bataille contre la réforme des retraites, elle se poursuit non plus sur les rails, mais avec des actions violentes, des intrusions, des coupures de courant. On en parle avec vous, les grandes voix dans ce studio. On parlait de, à la fois des leaders, CGT, CFDT, qui semblent inaudibles aujourd'hui parce qu'ils n'arrivent pas à tenir leur base. Peut-être une réflexion là-dessus, vous tous. Et puis effectivement, je parlais d'une forme de guérilla. C'est comme ça que ça se transforme. En tout cas, on se pose la question avec
guérilla
ces actions.
Urbaine.
Guérilla urbaine, Charles
Villeneuve.
C'est
le terme précis. Et d'ailleurs, ça a intrigué pas mal de professeurs du Centre des hautes études militaires, notamment le colonel Michel Goya, qui planche beaucoup là-dessus. Et qui a fait toute une étude, une analyse sur la guérilla urbaine et qui a remarqué notamment durant la guerre d'Espagne la manière dont un certain nombre d'officiers républicains n'étaient pas obéis parce qu'ils n'allaient pas assez loin et comment la troupe elle-même avait lancé un système de guérilla urbaine de manière sporadique. C'est-à-dire que ce n'est pas en continu, mais c'est très ciblé et on intervient pour essayer de relancer la machine pour relancer aussi les chefs qui sont obligés de suivre. Et on est dans ce schéma et dans ce système.
Et pour une raison, oui. Moi, je crois que pour une raison, on a ce climat. Et j'ai trouvé
une raison, Emmanuel Macron ?
Non. Au-delà, si vous voulez.
Mais on va y venir.
Bien sûr qu'il y est. Mais au-delà, je veux dire, par là, je crois que l'expression de Sarkozy est assez bonne, les feux de la haine. Les violences, les feux de la haine ont droit de cité dans notre système politique. Pourquoi ? Parce que ce système politique qui existait, que nous avons connu, nous, comme journalistes, depuis 40 ans, était un système de bipolarisation, un système binaire où il y avait la gauche et la droite, en gros. Et quand il y avait, effectivement, des insatisfactions, etc., on se disait, de toute façon, on gagnera le prochain coup. Il y avait un exutoire. Aujourd'hui, l'éclatement avec l'élection de Macron du système politique, avec toutes ces familles qui ne savent d'ailleurs pas très bien où elles en sont, ça permet l'implantation, effectivement, de cette violence. La violence, aujourd'hui, n'est plus un tabou dans la société politique.
Alors, deux questions, Marie-Ève Malouine. Je voudrais qu'on aille aux États-Unis pour regarder ce début de procès d'impeachment pour Donald Trump. Deux questions. Est-ce que la France connaît un climat de violence plus important depuis l'élection d'Emmanuel Macron ? Est-ce que c'est, en gros, sa responsabilité, là, cette poursuite de crise ? Et c'est ce que je vous disais juste avant la pause. Où sont les leaders de la CGT ? Où sont-ils ? Est-ce qu'ils sont inaudibles ? Pourquoi la base ne les écoute pas ?
La CGT, les leaders sont inaudibles parce que c'est encore le phénomène qu'il y a eu avec les Gilets jaunes, parce que on a le pouvoir nous-mêmes et la CGT n'était pas dans les Gilets jaunes. Elle essaie de recoller au mouvement. Donc là, sa base, en fait, elle court derrière, elle ne la dirige pas du tout. Donc ce n'est pas sa base dans cette mesure-là. Et puis sur la violence, c'est vrai que volontairement ou pas, le quinquennat d'Emmanuel Macron a donné le sentiment que la violence permettait d'obtenir des choses. Il y a eu ça pour les Gilets jaunes, mais avant ça, il y a eu Notre-Dame-des-Landes qui rejoint ce phénomène de guérilla dans la formation de ces jeunes, souvent, mais qui font partie de cette mouvance politique, qui s'entraînaient. C'était devenu un centre d'entraînement, Notre-Dame-des-Landes, à cette forme d'action politique. Et Notre-Dame-des-Landes, qu'est-ce qui s'est passé ? Il y a eu un référendum, il y a eu la voie politique traditionnelle qui a dit non, l'aéroport doit être construit, mais en fait, ça a été contredit parce que le gouvernement a dit non, finalement, on ne le fait pas, par crainte des violences de cette guérilla organisée sur place.
Vous remarquerez d'ailleurs, Nathalie, que aussi bien Notre-Dame-des-Landes que les Gilets jaunes, il n'y avait pas de leader.
Non, c'est le refus des leaders, justement.
Exactement. C'est le basis.
On va filer aux États-Unis, si vous le voulez bien. On va regarder ce qui se passe du côté du procès en destitution, procès historique en destitution de Donald Trump. Enfin, en tout cas, historique sur le papier, hein, parce qu'on sait bien, il ne se passera rien tout de suite.
Votre grand journal du soir avec Nathalie Lévy, c'est tous les jours, jusqu'à 20h. La suite de votre grand journal du soir sur Europe 1 avec jusqu'à 19h le débat des grandes voix. Et ce soir, autour de vous, Nathalie Lévy, Charles Villeneuve, Gérard Carrérou et Marie-Ève Malouin.
Et les grandes voix, on va se diriger aux États-Unis parce qu'il y a ce procès en destitution de Donald Trump qui a démarré. L'actuel président, qui deviendra le troisième président américain faisant l'objet de ce type de procédure. Mais il est absent. Il est absent, il est à Davos, en Suisse. Hein, on l'a entendu en face de Greta Thunberg. Bon, bah alors, c'est un coup pour rien.
Ben non, il fait campagne à Davos. Il a fait une formidable campagne cet après-midi, ou ce matin, je ne sais plus, avec le décalage horaire. Il était le Trump sûr de lui et dominateur, qui s'en prend aux prophètes de malheur et à leurs prédictions d'apocalypse, etc. Bien évidemment, la petite Greta. Mais au-delà de ça, Trump, il arrive là et il rappelle ses trophées. Alors d'abord, il traite les démocrates il appelle ça la chasse aux sorcières, oui. Hein, bon, le procès qui lui est fait au Congrès. Et puis il sort ses trophées, Baghdadi, la tête de Baghdadi d'un côté, la tête du général Soleimani de l'autre, ses résultats économiques, et puis l'accord chinois qui vient d'intervenir. Donc il joue la fin de l'année face à ceux qui jouent la fin du monde.
C'est ça. On a l'impression que c'est un boulevard Charles Villeneuve pour Donald Trump. C'est-à-dire qu'en dépit des épreuves, même les plus improbables, il ne sombre jamais. On le sait très bien. De toute façon, ses avocats ont appelé à l'acquitter immédiatement et ce sera le cas parce qu'on le sait, de toute façon, le Sénat est républicain, donc il n'y a aucun danger. Bon, voilà, il déroule.
Écoutez, il n'en reste que le contraste est étonnant quand même parce que justement, il a profité sur son bilan économique qui est réel, qui est fait d'un mélange de protection de produits américains et de fiscalité douce, c'est-à-dire de baisse des impôts. Et puis, il a la puissance du dollar qui est la monnaie monde. Et puis, évidemment, un marché considérable de 300 millions d'habitants.
350.
Et il n'y a jamais eu autant de création d'emplois. Il faut le reconnaître. Donc, évidemment, il est là pour vanter son
bilan. Mais
quand je dis le contraste est étonnant, avec toutes les controverses dont il est l'objet, c'est-à-dire l'enquête russe, l'enquête ukrainienne, plus la floraison de tweets quand même assez étranges, étonnants, à l'emporte-pièce, etc., qui rend ahuri, si vous voulez, notamment l'Europe, tous les leaders politiques européens et la presse européenne. Sauf que la presse européenne, il ne faut jamais oublier qu'elle le prend pour un bouffon, comme elle avait pris pour un bouffon, ou en tout cas Boris Johnson, et on a vu les résultats. Donc, il est resté et reste étonnamment stable.
Oui.
C'est-à-dire, ceux qui ne l'aiment pas, eh ben, on les connaît. Et ceux qui l'apprécient, on les connaît aussi.
Et finalement, les
sondages restent les mêmes.
Il est à 45%, je rappelle simplement. Il est à 45%. Beaucoup de chefs d'État européens, autres que lui, aimeraient partir en campagne avec 45%
bah
10 mois avant l'élection.
Mais ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'effectivement, le 3 novembre prochain, à l'élection, lui, il s'est mis en ordre de bataille. On a pensé la faire plier, mais on s'est trompé, a priori. En tout cas, avec l'économie, le chômage au plus bas, Wall Street au plus haut, etc. Bon, bah l'hypothèse de sa réélection, elle prend de plus en plus de consistance.
Mais depuis le début, Donald Trump, il joue son électorat. Il a un électorat et il fait tout ce qu'il faut pour le garder, pour le conserver. Et malgré toutes les affaires, à chaque fois, dans les sondages, son électorat tient. Donc il est là pour... il cherche à le conforter. Et cette procédure d'impeachment...
Elle n'aura pas d'impact sur la campagne, alors ?
Non.
Parce qu'elle aboutira pas, de toute façon.
Elle va conforter son électorat. Il essaie même d'en grappiller un petit peu plus. En juin, vous avez vu, ces démocrates, ce sont des incompétents. Ouais, ils n'ont que ça à faire. C'est de la chasse aux sorcières. Et ils n'ont rien à proposer. Ils ne font rien, c'est ce qu'il dit. Et donc, ça crée un réflexe un petit peu par rapport à son électorat. Et donc, ça ne changera rien. Mais les démocrates jouent aussi par rapport à leur opinion, qui est de dire, vous ne pouvez pas le laisser réélire.
Mais qu'est-ce qu'il faudrait pour que les lignes bougent, finalement ? Il faudrait quoi ? De nouvelles révélations, de nouveaux témoignages accablants ? On a l'impression que rien ne peut suffire.
C'est les gens qui ne votent pas, qui se mobilisent. Ils cherchent à mobiliser les gens qui ne vont pas voter. C'est vrai que la participation n'est pas importante aux États-Unis.
Il ne faut pas oublier, là je parle de quelque chose qu'on a vécu, aussi bien Gérard plus que moi, puisque Gérard est un vrai spécialiste de la vie quotidienne américaine. Il y passe un certain temps. Il a des enfants qui sont là-bas aussi, qui sont des journalistes, etc. Et donc, si vous voulez, entre le Watergate, qui était un problème de politique intérieure, qui touchait à la liberté de la presse, qui est fondamentale aux États-Unis, beaucoup plus qu'en Europe, beaucoup plus qu'en France, en tout cas. Et évidemment, aujourd'hui, l'enquête russe, l'enquête ukrainienne qui relève de la politique étrangère, et notamment, évidemment, si vous voulez, ce qui est discutable sur le plan de la diplomatie, c'est-à-dire l'assassinat d'un numéro 2 d'un régime par un chef d'État, mais on sous-estime le traumatisme considérable de ce que les Américains ont vécu en 1979 avec les gens de Khomeini qui ont pris en otage toute l'ambassade américaine et qui est restée dans la mémoire. Moi, j'ai vécu toute la guerre civile libanaise avec les Marines qui étaient là, avec l'attentat du 23 octobre 1983, etc. Le souvenir de ce fait est terrible chez les Américains.
D'ailleurs, Donald Trump s'en sert, il désigne 52 sites. C'est le nombre des otages à l'ambassade américaine. Exactement. Ça veut bien dire qu'il est toujours dans cette revanche-là.
Dans la presse française et la presse européenne, mais surtout la presse française, comme dans le début, est toujours en train de se mettre le doigt dans l'œil concernant les États-Unis. Parce que les gens vont passer 3 jours à New York, ils voient des démocrates, ils voient des gens cultivés, intelligents, et ils disent « les Américains pensent que ». Ben les Américains, ouais, ils ne sont pas comme ça.
Mais alors, dis-moi, Gérard, puisque vous faites des allers-retours, vous sentez les choses, qu'est-ce qu'on dit, parce qu'il y a le casse-tête démocrate en face, plus encore,
Joe Biden. Regardez le piège. On commence tout à l'heure, à la fin de notre émission à nous, ils commencent les auditions au Sénat. Oui. Et il y a deux otages, deux sénateurs qui sont tous les deux candidats à être président des États-Unis, et d'abord à avoir l'investiture démocrate, qui ne vont pas pouvoir bouger le petit doigt pendant 3 semaines parce qu'ils sont tenus. Ils sont tenus par la loi d'assister à toutes les auditions, etc. Mmh. Et c'est les deux, sont Sanders d'un côté et Elizabeth Warren de l'autre, qui sont parmi les deux possible candidat démocrate. Donc, il les a ligotés quelque part. Et au fond, l'impeachment va se retourner en sa faveur et pas. Et c'est d'ailleurs ce qu'avait senti Nancy Pelosi. Elle ne voulait pas d'une procédure d'impeachment parce qu'elle sentait
Procédure en destitution, je rappelle la traduction contre Donald Trump qui, selon les grands voix, ne peut pas être un handicap pour sa réélection. Voilà ce que vous nous dites, entre autres, ce soir. Merci à vous, les grands voix.
On peut se tromper.
Mais bien sûr. Dis-moi encore.